faut acheter chez une personne qui s'y connaît, qui sait qu'est-ce que c'est des tefillines, qu'est-ce que c'est des mezouzot, et qui va pas nous vendre n'importe quoi. Parce que très souvent, il y a des gens qui ont un magasin, mais ils n'y connaissent rien. Et quand ils n'y connaissent rien, donc ils se font avoir eux-mêmes. Moi, j'ai eu un cas comme ça, quelqu'un qui m'a donné des tefillines à vérifier. Quand je les ai ouverts, il n'y avait rien. C'était mon match vide. Je voulais se faire travailler avec des arts.
Ça
veut
chaud,
dire
ça.
Que 6 mois de travail, qu'il a passé 600 heures ou je ne sais pas combien d'heures sur ce Sefer Torah, ça va avec Lisa.
Donc ça renforce vraiment l'idée de se dire qu'il faut avoir affaire à quelqu'un de confiance qui n'aurait pas peur de jeter 6 mois de travail à la Gnisa. Salut à tous et bienvenue sur Torah Box. Aujourd'hui, on reçoit un expert en vérification de Mezouzot, Meir Madar. On va lui poser toutes les questions qui tournent autour de ce sujet. On va aussi revenir avec lui sur les polémiques, les scandales qui ont pu toucher ce domaine si sacré, des gens malveillants qui l'ont infiltré et qui ont trompé beaucoup de gens en vendant des Mezouzot qui n'étaient pas cachères. Et il va nous raconter des histoires fantastiques qu'il a vécues lui-même en vérifiant des Mezouzot, des gens qui avaient des problèmes de santé, de parnassa, etc. Il va trouver l'erreur dans les tefillines, dans la mezouza, il va la corriger et le problème va s'en aller. Vous allez voir, c'est des histoires complètement folles. On perd plus de temps, c'est parti tout de suite pour ce Panim El Panim avec Meir Madar. Meir, bienvenue sur Torah Box, on est content de t'avoir.
Moi aussi.
Alors je sais pas, on se tutoie parce qu'on a l'habitude de se tutoyer, mais...
Oui, on peut se tutoyer, ouais. c'est sûr.
Parce que les gens ils vont me dire, il est en train de parler à un rave et il le tutoie, je veux pas que ça soit mal interprété. Tu es sofer et bodek, c'est-à-dire que tu écris des mezouzot, des tefillin, des sefer Torah, mais surtout tu es un expert pour les vérifier. Et dans cette émission, tu vas nous raconter des histoires assez folles que tu as vécues en vérifiant des mezouzot, des tefillin. Mais avant de plonger dans ces histoires incroyables, j'aimerais qu'on commence par un sujet qu'on entend parfois parler, qui fait un peu scandale. Alors, Baruch HaShem, c'est rare, mais ça existe. C'est un peu le travail prévention qu'on va faire dans cette émission. C'est quoi aujourd'hui pour toi les trois arnaques, ou les trois choses qu'on voit le plus sur le marché et à laquelle il faut faire attention?
Les trois grands problèmes, alors il y a les mezouzot. Filines aux autres qui ont été écrites, qui ont été imprimées sur du parchemin.
C'est-à-dire, au lieu d'être écrites par la plume, elles sont directement imprimées avec un ordinateur. Quoi.
Imprimées par l'ordinateur.
Mais sur du parchemin, donc on ne voit pas la différence.
Exactement.
Et comment on s'en est rendu compte?
Alors, on s'en est rendu compte avec.
Parce que c'est du vrai parchemin, donc on ne voit pas la différence.
C'est vrai. C'est du vrai parchemin, seulement le problème, c'est que toutes les mezouzot, elles étaient les mêmes. Il n'y avait pas de différence. Quand quelqu'un il écrit, quand c'est fait quelque chose est fait à la main, il y a toujours des différences. On peut remarquer qu'ici...
Même s'il a, il a la même écriture, etc.
Même écriture.
C'est jamais identique à 100%.
C'est jamais identique à 100%. Et donc là, on a remarqué que là, c'était des mezouzot, plein de mezouzot, des centaines de mezouzot qui étaient tout simplement imprimées et toutes les mêmes. Et donc, on est monté dessus.
Et ça me fait penser justement à une vidéo que j'ai vue sur Internet, c'était assez incroyable. On voit une sorte de grand bras mécanique comme ça, avec une plume, la vraie plume d'un scribe, et en train d'écrire un Sefer Torah. Alors là, on ne parle même plus de mezouzot ou de fine, on parle d'un Sefer Torah. Est-ce que ça, c'est valable, ça?
Non, c'est sûr que ce n'est pas valable.
Même si c'est écrit parfaitement comme il faut.
Même si c'est écrit parfaitement, il faut que ce soit écrit par un homme, qu'il ait les pensées qu'il faut et que ce soit écrit comme il faut.
Alors, on va revenir évidemment sur le rôle du sofer, donc du scribe. Comment faire pour bien le choisir? C'est quoi les conditions qu'il doit remplir, etc. On va revenir sur ça un peu plus tard. Mais avant ça, c'est quoi les autres arnaques qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui?
On peut aussi avoir d'autres arnaques sur, quand on achète des tefillines mezouzot. C'est que des tefillines qui n'ont rien à l'intérieur. D'ailleurs, moi, j'ai eu un cas comme ça, quelqu'un qui m'a donné des tefillines à vérifier, il y a quelques années. Quand je les ai ouverts, il n'y avait rien. C'était mon match vide, pas de parchemin, il n'y avait rien. Je suis resté vraiment étonné.
Mais c'est beaucoup plus dur en plus pour des tefillines, parce qu'on va dire une mezouza, on a le parchemin, on le voit. Il est dans le boîtier, etc. Mais les tefillines, on ne peut pas ouvrir des tefillines. Il n'y a qu'un sofer ou un bodek comme toi qui peut ouvrir et ça va. Donc c'est impossible à savoir. Donc, c'est chaud. Et si je me souviens bien, il y a quelques années, je me rappelle, quand j'étais arrivé en Israël, il y avait eu un gros scandale sur ce qu'on appelle en hébreu les retsuot. Donc c'est les lanières des tefillines qui sont liées à la tête et au bras. Et on parlait de fausses lanières. Alors c'est quoi des vraies lanières et c'est quoi des fausses lanières?
Alors les lanières, il faut savoir qu'elles ont... On prend la peau de la vache et on la tanne, on la coupe, on lui donne l'épaisseur qu'il a besoin. Et la même peau, après, on va la peindre et on va en faire des retsuot. Les retsuot qui n'étaient pas valables, ils ont tout simplement collé une couche de plastique au-dessus. Et après, ils les ont coupés comme des retsuot.
Et comment on s'est rendu compte alors? Parce que ça s'est...
Ah, on s'est rendu compte tout de suite. Très rapidement, on s'en est rendu compte parce que le cuir, il a une certaine souplesse. Et là, il n'y avait pas la souplesse, il n'y était pas. C'était, le haut, il était très dur, en dessous, c'était très souple.
Parce que je me rappelle qu'à l'époque, on nous disait prenez vos lanières, trempez-les dans de l'eau chaude pour voir si vous êtes fait avoir vous aussi ou pas. Et je me rappelle avoir trempé mes lanières dans l'eau chaude en ayant un peu peur, en se disant si c'est ça, ben, j'ai pas mis mes fines parce que c'était pas cachère.
Ouais.
Alors justement, en parlant de ces signes, c'est quoi les signes qui doivent alerter quand on veut acheter un objet sacré, une mezouza, des tefilines, un sefer Torah? C'est quoi les premiers signes qui doivent alerter pour nous dire, là, il y a un problème?
D'abord, il y a le prix. C'est le premier signe, d'abord, c'est le prix. On a parlé des retsuot,
Des
lanières, qui sont pas du tout chères. Ça doit nous allumer une lumière rouge. Parce que quand on connaît le travail qu'il y a pour fabriquer des lanières, j'ai fait une fabrique de lanières, et quand j'ai vu le travail qu'il y a, j'ai dit, c'est pas possible. Au prix qu'elles sont vendues, que ce soit du cachère.
Donc en fait, elles étaient vendues, j'imagine, beaucoup moins chères.
Beaucoup moins chères que les retsuot.
D'un coup, il y a des lanières beaucoup moins chères qui arrivent sur le marché, on se dit, c'est bizarre.
Voilà, c'est mamache bizarre.
Mais c'est toi, tu sais, parce que tu connais, parce que t'as travaillé dedans, donc tu connais le travail que ça engage.
C'est vrai.
Mais moi, je parle du grand public. Le grand public qui va acheter une paire d'outils dans un magasin aujourd'hui. Donc, les premiers signes, c'est des prix bas. On va revenir après sur les prix en moyenne. Combien ça coûte des tefilines? Combien ça coûte une mezouza? Combien ça coûte un sefer Torah? Pour donner un peu une notion aux gens qui ne connaissent pas les prix du marché. Donc, c'est les prix notamment bas. Est-ce qu'il y a d'autres signes quand on arrive dans un magasin pour acheter ce style d'objet qui doivent nous alerter?
D'abord, la personne qui va les vendre. Il faut voir une personne. Il faut acheter chez une personne qui s'y connaît, qui connaît son travail, qui connaît les retsuot, qui sait qu'est-ce que c'est des tefilines, qu'est-ce que c'est des mezouzot, et qui va pas nous vendre n'importe quoi. Parce que très souvent, il y a des gens qui ont un magasin, mais ils n'y connaissent rien. Et quand ils n'y connaissent rien, donc ils se font avoir eux-mêmes. Et c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, mais ils se sont fait avoir. Et donc ça, il faut faire très attention. C'est très, très, très dangereux.
L'idée, ça serait de se dire, on rentre dans un magasin où il devrait y avoir une théouda, donc une comme on dit, une théouda de cache-route. Donc il n'y a pas une théouda en France dans un magasin, mais chez un sofer, en tout cas, celui qui vend, qui écrit ces parchemins-là, lui est censé avoir un certificat. On parle de certificat pour un sofer, mais quand on n'a pas affaire directement au sofer, qu'on va acheter par exemple en France dans un magasin directement, mais on ne s'y connaît pas, est-ce que la personne s'y connaît ou pas? Nous, on n'en sait pas plus. À qui on doit demander pour nous aiguiller, pour nous dire est-ce que je peux acheter là-bas une mezouza, des tefilines?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Il faut aller mamash chez des gens qui s'y connaissent. Et donc, il faut se renseigner soit auprès du RAV, soit se renseigner auprès d'un organisme comme par exemple Torah Box, qui a le Rav Dayan qui est dans Torah Box qui va...
Oui, évidemment, question orale, le fameux question orale, on peut appeler le question orale et demander j'habite telle ville, je veux acheter une mezouza, évidemment on sera aiguillé par Torah Box au l'endroit.
Exactement, et donc lui-même il se renseignera, il verra où aller et où envoyer la personne.
Et est-ce que tu as déjà vu, toi, quelqu'un qui vendait des tefilines ou des mezouzot, mais qui n'était pas sofer? C'est-à-dire qu'il écrivait lui-même sans avoir eu ce diplôme-là?
Oui, il y en a plein.
Alors, pourquoi je pose la question? Parce que... c'est hyper important de connaître quand on devient un scribe. Il y a des lois très très strictes à connaître, des lois juives à connaître pour pouvoir écrire. Et j'aimerais qu'on donne un exemple pour que les gens comprennent la notion. C'est quoi ces lois qu'on doit savoir?
Un des détails, par exemple, sur les mezouzot tefilin, on a besoin que ce soit al-seder. Il faut qu'on l'écrive. Ça veut dire qu'il faut qu'on écrive la première lettre avant la deuxième lettre, la deuxième lettre avant la troisième, etc., jusqu'à la fin. Et on doit l'écrire dans l'ordre que ça a été donné. Si on change l'ordre, c'est pas soul. Maintenant, si on a oublié une lettre, c'est aussi pas soul. On peut pas gratter pour rajouter la lettre au milieu. Parce que la lettre qu'on aura rajoutée, elle a été écrite pas dans l'ordre qu'on a besoin. Et donc un sofer qui a travaillé très longtemps, c'est pas évident.
Donc en fait, si je résume, un sofer qui va écrire une mezouza, qui va arriver presque vers la fin, il se rend compte qu'il a oublié un mot ou même une lettre, c'est fini. Il ne peut plus revenir en arrière corriger. Pourquoi? Parce que s'il revient en arrière, ça veut dire qu'il va écrire la lettre d'avant après avoir écrit la lettre d'après. C'est
exactement
ça?
Exactement.
Et donc pour ça, il faut avoir une certaine crainte du ciel. On parle de cette fameuse crainte du ciel parce que après avoir passé plusieurs heures à écrire un parchemin, avoir fait une erreur que n'importe qui pourrait faire, parce qu'on est des êtres humains, il faut avoir cette force de dire, je prends ce parchemin, je le mets à la Gnisa, donc à l'endroit où entre guillemets on jette les objets sacrés, et pas le vendre, parce que si on le vend,
il n'est pas cachère.
Et c'est quoi, selon toi, l'erreur la plus fréquente que les gens font quand ils achètent une mezouza, des tefilines?
Très souvent, par exemple, une mezouza, très souvent ils achètent d'abord le boîtier, un très beau boîtier en argent, bien, bien, bien beau, bien, bien cher. Et après, il faut trouver une mezouza qui va s'adapter au boîtier. Et très souvent, la qualité de la mezouza, elle ne correspond pas du tout.
On a mis tout le budget dans le boîtier et on a... Ok. Et est-ce que c'est vrai que quand on achète une mezouza, donc chez un sofer ou dans un magasin, peu importe, la mezouza doit être plate et pas enroulée?
La mezouza, d'abord, elle est toujours plate au départ. Elle n'est pas enroulée. Si elle est enroulée, ça veut dire qu'elle a déjà été utilisée. C'est peut-être qu'il a pris la gniza. On ne sait pas d'où elle vient. Quand elle est ouverte...
Ça peut être de la deuxième main, ça, il n'y a aucun problème
ça
en
peut
soi.
Être, oui, aucun problème.
Mais ça peut être, comme je dis, de la gniza, donc la gniza. Une qui est impropre et qui...
Oui.
Ok, donc il faut faire attention que quand on achète une mezouza, de manière générale, si elle est neuve, elle est à plat. Elle n'est pas enroulée.
Voilà.
Voilà, c'est une technique qu'on donne aux gens. En fait, une mezouza, quand elle a été enroulée, c'est fini, on ne peut plus la mettre à plat. C'est ça l'idée. Parce que le parchemin, on verra la marque du...
Ouais.
Ok, super. Et toi, tu es un expert en vérification de mezouzot. C'est quoi le pourcentage de mezouzot que tu vérifies et qui sont complètement pas cachères?
Les mezouzot qui sont complètement pas cachères, qui manquent des lettres, etc., c'est à peu près 10-15%.
C'est pas mal quand même,
15%. C'est pas mal, c'est pas mal mais il y en a.
Et pour les tefilines, c'est à peu près quoi le pourcentage de tefilines qui ne sont pas cachères du tout?
Ça arrive, j'ai déjà eu ces cas-là. De tefilines qui n'étaient pas du tout cachères.
C'est terrible parce qu'une personne à qui tu dis tes tefilines ne sont pas cachères, il ne les a pas vérifiées depuis tant d'années. Est-ce que ça veut dire que depuis tant d'années, il n'a pas mis ses tefilines? Comment
c'est
tu l'annonces cette
c'est
nouvelle?
C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, moi, je suis. Mon rave, c'était le rave Shlomo Zalman Ullman de Kirat Sefer, qui était du Bedin de Rav Vosner. Il n'a jamais dit que c'était pas soul. Il ne disait jamais pas soul. Toujours, il a dit il faut les changer. Pour pas donner l'impression à la personne que c'est pas saoul.
Là, on parle de diplomatie, hein, quand on annonce à la personne.
Diplomatie, ouais.
Mais en concret, c'est...
C'est pas saoul. C'est sûr que la personne, elle va comprendre que c'est pas saoul. C'est sûr que la personne qui a mis des tefilines qui étaient psoulotes, maintenant, il a fait tout ce qu'il faut. Il a fait tous les efforts possibles pour qu'elles soient cachères. Il les a achetées dans un endroit réputé, dans un endroit où il y avait un certificat, etc. Donc, il a fait tout ce qu'il peut. On a un principe dans la Torah que Anus Rachmana Patre. Quelqu'un qui a fait tout ce qu'il peut et que il a quand même eu quelque chose de pas saoul, c'est pas de sa faute. Donc on va pas dire qu'il a pas mis les tefilines. Alors c'est vrai que il aura pas mis les tefilines Kshirot, mais il aura fait quand même l'effort de mettre des tefilines, il aura fait quand même l'effort d'acheter des tefilines. Et ça, c'est sûr qu'il y aura un sroute, un très grand sroute quand même.
Et ça t'est déjà arrivé, toi, en concret, des gens qui t'amènent des tefilines qui sont complètement non cachère?
Oui, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a donné les tefilines de son père, les parchiotes de son père à vérifier. Et moi, je lui ai demandé tout de suite, est-ce que ça a passé le marché, ça a passé l'ordinateur? Il m'a dit, il n'y a pas besoin, ça a passé chez les plus grands
vérificateurs.
Donc, il n'y a pas besoin,
Alors,
de faire
je te coupe, quand on parle ordinateur, ce qu'on va expliquer après, que quand on fait une vérification, il y a deux vérifications. Il y a la première faite par un bodec, donc un vérificateur, et il y a la vérification, on met les tefilines dans un ordinateur qui analyse directement le parchemin, et la synthèse des deux se permet de trouver, savoir s'il y a des erreurs ou pas. Donc là, tu lui demandes s'il a passé la deuxième étape, c'est-à-dire l'ordinateur, tu dis non, il a passé les plus grands correcteurs déjà.
Les plus grands correcteurs, il a passé, et moi je lui ai quand même insisté, je lui ai dit mais peut-être qu'il serait intéressant de faire quand même l'ordinateur. Donc il a accepté, donc je l'ai passé à l'ordinateur et il manquait un mot entier.
Alors, et quoi, donc pas... tous les vérificateurs, ils n'avaient pas vu ce mot entier qui est...
Ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu, mais il faut savoir que quand on connaît un texte par cœur, très souvent, on dit des choses qui n'ont pas marqué. Et c'est comme ça. Maintenant, le vérificateur, très souvent aussi, il regarde les lettres, et des fois, il ne regarde pas même les mots. Donc, ça peut arriver. Quelque chose qui peut arriver. Et là, c'est où
il... Et alors, comment il a annoncé à son père
donc,
de...
Il n'a pas dit à son père... Il a dit à son père une seule chose, qu'il devait arranger les boîtiers, et donc ça allait prendre un petit peu de temps. Et donc, il lui a acheté des nouvelles parchiotes pour les remplacer et pour que le père il puisse, à partir de maintenant...
Pour ne pas lui faire de la peine, il lui a acheté des nouvelles filines pour...
Exactement.
Très bien. Et on va rentrer justement dans ce domaine un peu des histoires qui tournent autour des filines et mezouzot. On entend souvent des histoires, on a fait vérifier les mezouzot et tout s'est débloqué dans la vie. Est-ce que toi, tu as déjà vécu des histoires impressionnantes?
J'ai déjà eu des histoires. Une veuve qui m'a téléphoné pour que je prenne, que je lui vérifie les mezouzot. Elle m'a dit qu'elle avait énormément de vertige, que toute la maison elle tourne. Elle a été voir des médecins, elle a fait tous les examens qu'il fallait faire. Ils lui ont dit qu'elle était en bonne santé, qu'il n'y avait aucun problème. Donc elle est venue chez moi, elle m'a demandé, comme elle est veuve, elle ne savait pas comment enlever les mezouzot, donc elle m'a demandé à moi de les enlever. Quand je les ai enlevées, elles étaient toutes à l'envers. Les mezouzot, elles avaient été mises à l'envers et pas à l'endroit comme il faut.
Donc tu veux dire que le parchemin était à l'envers dans le boîtier ?
À l'envers dans le boîtier. Et donc, et elles étaient très belles. Les mezouzot, elles étaient très belles, mais elles ne faisaient pas la mitzvah.
Et quoi, donc tu les as remis à l'endroit ?
Je les ai remis à l'endroit.
Et les vertiges ? Et
donc, Hachem s'est passé. Oh. Ouais, ça s'est passé. Et d'ailleurs, c'est connu, Stam, c'est connu également que le Rav Chaim Kanievski disait, quand un bébé dans le ventre de la mère, il est à l'envers, il disait d'aller vérifier les livres.
De la bibliothèque, ouais.
De la bibliothèque.
J'ai entendu ça, ouais, c'est incroyable ça.
Droit et qu'il ne soit pas à l'envers.
Ah ouais, c'est incroyable que le livre de la bibliothèque, ouais. C'est vrai, hein. Et tu m'as raconté une histoire pendant la préparation, une histoire, je ne vais pas dire marrante, mais une histoire d'un enfant qui n'arrêtait pas de manger.
Oui. Alors il y avait une fois...
Ça, c'est une histoire assez folle.
C'est une histoire assez folle. Ils ont été voir le Rav Chaim Kanievski, parce que l'enfant, il avait une boule mousse, une boulimie, il ne s'arrêtait pas de manger. Il mange, il ne s'arrêtait pas. Et il y a marqué dans la paracha, il y a marqué « Va'achalta ve'savata ». Tu mangeras et tu seras rassasié. Et dans ce parchemin-là, il y avait marqué, dans la mezouza de sa chambre, à lui, à cet enfant, il y a marqué « Va'achalta ve'savata ». Il n'y a pas marqué « Ve'savata ».
Il y a écrit deux fois « Va'achalta ».
Il y a marqué deux fois « Va'achalta », il n'y a pas marqué « Ve'savata ».
Et donc, c'est ce qui expliquait qu'il n'arrêtait pas de manger, mais qu'il n'était pas... Sauvé, comme on dit en hébreu, qui n'était pas rassasié. Il y a des fois des histoires qu'on entend avec des personnes malades qui ont un problème de santé. Et on trouve des fois, dans leur parchemin de leur mezouza, le problème est directement lié à leur problème de santé. Est-ce que toi, tu as déjà vu des cas comme ça précis ?
Il y a eu une fois, j'ai eu un cas, une fois, quelqu'un qui m'a donné une mezouza. C'était des tefilines, pardon. Et il y avait dans le mot Levafra, il y avait un trou. Dans une des lettres, il y avait un trou. Et le parchot était pas saoul. Et il avait un problème de cœur.
Donc les mavras, ça veut dire en hébreu
son cœur.
Son cœur. Et dans le mot, il y avait un trou.
Il y avait un trou.
Et il avait un problème de cœur.
Il avait un problème de cœur.
Mais quand tu vois ça, tu répares. Et tu te renseignes après en disant, bon, ça va mieux ton cœur ? Comment ça va ?
Des fois, oui, des fois.
Non, mais c'est-à-dire que ça, concrètement, ouais. Après, il a une... Lui, il a une guérison qui est arrivée ?
Oui, je crois qu'il a eu. C'est ce que je me rappelle, oui.
Et est-ce que tu as eu d'autres histoires, parce qu'on parle souvent des mezouzot et de filines, mais est-ce que ça peut arriver d'avoir des erreurs dans un Sefer Torah ?
Bien sûr. Dans une communauté qui a reçu un nouveau Sefer Torah, et ils ont lu donc, dans le Sefer Torah chaque semaine, quand ils sont arrivés à la fin du Sefer Bereshit, ben, ils ont vu qu'il manquait une Yeria.
Et après, alors une Yeria, on va dire, c'est un morceau. Donc le Sefer Torah est composé de plusieurs morceaux qui sont attachés.
Ils sont attachés, qui sont
cousus. Et tout un morceau qui manquait.
Alors c'est pas qu'il manquait, il était inversé avec le morceau d'après. Ils ont inversé deux morceaux.
Ils ont cousu le Sefer Torah, ils ont inversé
voilà.
Les.
Voilà, ils ont inversé les deux Yériot, les deux parchemins, ils les ont inversés.
Ça paraît gros quand même pour.
Ouais, ça paraît très gros, mais ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Et le Sefer Torah, il est pas saoul.
Il n'est pas saoul.
Comment on fait pour parler de ces histoires de mezouzot, de tefillin et de Sefer Torah ? Là, voilà, on dit qu'il avait un problème au cœur, etc. Et tout. L'autre, elle avait des vertiges et tout. Comment on fait pour parler de ces histoires sans tomber dans la superstition ?
Alors d'abord, il faut savoir que la mezouza et les tefillin, c'est la shmira, c'est le gardien de la personne. Il y a marqué dans la mezouza, on marque à l'extérieur de la mezouza le shem Shakai, Shin Dalet Yud. Ça veut dire Shomer Dlatot Israël, le gardien des portes d'Israël. Donc c'est lié directement. À Kadosh Baruch Hu, il a donné une force à la mezouza, puisqu'on sait que tout est géré par Hachem en réalité. Tout ce qu'on fait, la santé de la personne, etc., c'est géré par Kadosh Baruch Hu. Et donc, s'il y a un problème dans la mezouza, alors à ce moment-là, ça retombe également sur la personne. C'est lié directement avec lui. Le côté matériel et spirituel d'une personne sont très, très liés. Très fortement liés ensemble.
Et donc, ce n'est pas de la superstition, mais c'est du réel, quoi. C'est une vraie connexion entre la mezouza et la personne. Incroyable. Et les tefillin aussi. Mais moi, il y a une question que je me pose à chaque fois, c'est que des fois, on entend des histoires, voilà, il y avait un trou dans le mot, il manquait un mot, etc. Est-ce que c'est un défaut qui existe depuis la création du parchemin, au moment où le sofer va écrire le parchemin, il va faire une erreur, et puis il va emballer ça et il va mettre dans le boîtier ? Ou est-ce que c'est un truc qui peut arriver après ?
Ça peut arriver après.
Ça peut être les deux, quoi.
Ça peut être les deux.
Et quand ça arrive après, comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est un signe du ciel qui, si il veut t'envoyer un signe, il va entre guillemets créer un défaut dans la mezouza ou dans les tefillin ?
Ça peut arriver. D'abord, l'encre, elle peut sécher. Il y a beaucoup de...
Alors, on va donner les raisons, justement, du côté technique. Mais avant de rentrer dans le côté technique, genre l'exposition au soleil, à l'eau et tout, est-ce qu'on peut expliquer ça aussi d'une manière spirituelle ?
Oui,
c'est un message
sûr.
Du ciel ?
Bien sûr.
Et dans le côté technique, comment les lettres pourraient s'effacer dans le temps ? C'est quoi qui fait que des lettres, d'un coup, elles s'effacent ?
Alors, il y a plusieurs raisons.
D'une manière rationnelle, on va dire.
Rationnellement, oui. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le côté que les lettres, elles sont écrites sur un parchemin. Le parchemin, il peut sécher. Si le parchemin qui est le bassis, qui est la base de la mezouza, s'il a séché, alors les lettres, elles ont tendance à se décoller. Si vous mettez un autocollant sur quelque chose, ça va se décoller.
D'accord.
Ça peut aussi s'étaler avec l'humidité, ça peut prendre l'eau, beaucoup de choses qui peuvent provoquer qu'une mezouza ou des tefilines, elles peuvent devenir psoulotes.
Donc en parlant de chaleur, quelqu'un qui va laisser ses tefilines dans la voiture, surtout ici en Israël où les chaleurs peuvent monter très très haut, on va dire que c'est très risqué pour les tefilines.
C'est très risqué. D'ailleurs, j'ai eu un cas de quelqu'un qui a laissé ses tefilines dans une voiture, sur la plage arrière de la voiture, et pendant plusieurs heures. Et quand on les a vérifiés, c'était psoulotes.
Plusieurs heures, ça suffit pour oui. flinguer les...
Oui.
Ah, d'accord. Donc, faire très attention,
à
la chaleur.
À la chaleur.
Et aussi, parce que des fois, on voit des mésozotes en extérieur qui sont exposées en plein soleil. Est-ce qu'elles risquent, elles aussi, de se faire...
Alors, ça aussi, ça risque.
Sécher et effacer ?
Oui. Ça arrive très souvent que les gens, ils ne savent pas, mais quand on met une mezouza à l'extérieur, alors, il faut les mettre soit dans un boîtier qui est blanc, pas transparent. Si c'est transparent, ça va prendre la chaleur, le soleil, il va provoquer que la lettre va se détacher et le clave va sécher.
Et donc, le fait de prendre un boîtier de couleur, donc blanc, ça va faire obstruction pour pas faire entrer la chaleur ?
Oui.
Ah, c'est intéressant ça.
Ça
et le transparent,
surtout le blanc.
D'accord.
Le blanc, c'est que le blanc, il repousse la chaleur.
C'est ça, ouais.
Ou bien en bois. Le bois aussi, ça sert. Le problème du bois, c'est si c'est dehors et qu'il pleut. Alors le bois, il s'abîme avec la pluie.
Alors, en parlant de pluie et d'eau, je crois que tu as une histoire à nous raconter avec un bahur yeshiva, donc un jeune étudiant en yeshiva.
Un jeune étudiant de la yeshiva qui est venu me voir avec cette filine. Et elle est dans un état épouvantable. Et il m'a raconté qu'il les a posées sur le lit. Et il y a d'autres personnes qui sont arrivées, ils ont posé d'autres choses sur le lit, ils ont tout mis à la machine à laver.
Donc les tefilines sont passées directement à la machine.
Nettoyage complet.
Mais ils sont foutus.
Alors... c'était étonnant. Les parchottes, elles sont restées, elles étaient bien.
Donc les parchemins, on n'a pas pu
les rattraper.
Donc les boîtiers, ils étaient foutus.
Voilà.
Mais les parchemins, ils n'ont pas été touchés. Comment c'est possible qu'il y a autant de mouvements d'eau dans la machine, ça rentre pas dans le boîtier ?
Ça rentre, mais ça prend quand même du temps pour que ça rentre.
D'accord.
Ça, on va dire que le boîtier, il va absorber l'eau, mais c'est pas arrivé jusqu'à l'intérieur même.
D'accord.
Et surtout qu'on utilise aujourd'hui des boîtiers qui sont Bemagasa, qui sont faits de...
Alors on va parler des différents boîtiers, etc., pour expliquer aux gens, surtout que ça joue sur le prix. Évidemment, quand on fait vérifier des tefilines, c'est la même règle que quand on achète des tefilines ou des mezouzotes. Il faut avoir affaire à une personne certifiée, reconnue, etc. Si tu veux, on va parler argent. Combien ça coûte en moyenne une mezouza ? Parce que j'ai tapé, alors c'était un peu rigolo, parce que j'ai tapé sur internet prix mezouza. Je suis tombé sur plein de sites, d'accord ? Mais il y a un site qui m'a fait tilt, c'est le site Amazon. Alors, on connaît tous Amazon, et là, je clique sur le site, je vois Amazon, mezouza à 10,95 €, on a le parchemin et le boîtier. Quelqu'un qui est, on va dire, pas très connecté à la religion, qui est un peu éloigné, qui veut faire bien et acheter une mezouza, il va faire comme moi, il va taper « mezouza » sur Google, il tombe sur ce lien. Est-ce qu'il peut acheter cette mezouza sur Amazon ?
C'est sûr que non.
Alors pourquoi ? Clairement, pourquoi ?
Parce que c'est pas cachère.
Pourquoi ?
D'abord, l'écriture. Quelqu'un m'a montré des mezouzotes sur Amazon, c'est une catastrophe. Elles ne remplissent pas les règles qu'il y a besoin, le minimum de règles au niveau de l'écriture, du côté technique de l'écriture, elle n'est pas valable.
Alors... En concret, ça coûte combien une mezouza aujourd'hui ? En moyenne, parce qu'on imagine qu'il y a tous les prix. Il y a des produits mezouza, c'est-à-dire que le produit qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus bon, peut toujours avoir une qualité qui est beaucoup plus haute que le côté simple. Mais on va parler du côté simple. Comment ça coûte une mezouza aujourd'hui ?
Alors une mezouza, plus ou moins, on va dire entre 80 € et 160 €, 180 €.
Donc c'est à peu près du simple au double. C'est quoi qui explique la différence de prix ? Donc 80 €, c'est à peu près la moyenne de prix d'une mezouza normale. C'est quoi qui explique la différence de prix quand on passe du simple au double, par exemple ? Alors, juste pour comprendre.
La différence de prix, c'est d'abord le sofer qui va écrire avec quelle vitesse il va écrire, combien de temps ça va lui mettre pour écrire la mezouza, la beauté du ktav,
la beauté de l'écriture.
La beauté d'écriture, l'expérience qu'il a aussi, le sofer, parce que ça aussi ça joue. Un sofer qui a une grande expérience, qui est reconnu, etc., il aura. Son prix sera plus cher.
Comme dans tout métier, évidemment, il fait jouer son expérience.
Son expérience, il la fait jouer, donc c'est comme ça. Ce qui joue également sur le prix, c'est également le claf, par exemple, le parchemin. Il peut être parchemin qui a été fabriqué à la machine, ou parchemin qui a été fabriqué à la main, c'est beaucoup plus cher. Ça change tout de suite, plus que du simple au double. Rien que ça joue beaucoup.
Mais on va dire un prix moyen, en tout cas pour les premiers prix, c'est à peu près 80 euros. En fait, pour Adjia, c'est que quand on parlait de la mezouza à 10 euros, on comprend qu'il y a un problème. Quand on passe de 80 à 10, on se dit il y a anguille sous roche. Alors pour les tefillines, la moyenne, c'est, on va dire, entre les premiers prix, ça va dépendre du style de tefillines. Tu me dis si je me trompe, parce que j'ai regardé un petit peu, il y a deux modèles. Il y a les pshutim et les gassotes. Alors pour expliquer c'est quoi, les pshutim, c'est un peu ce qui a toujours existé depuis, ce qu'on a connu depuis longtemps, mais c'est des modèles de boîtiers qui sont assez simples, très légers, très fins, et donc automatiquement qui vont beaucoup plus vite s'abîmer ou dans le temps. Et ce qu'il y a depuis maintenant quelques années, ce qu'on appelle les gassotes, c'est une qualité de boîtier qui est beaucoup plus épaisse et donc beaucoup plus durable dans le temps, et qu'on recommande évidemment à acheter. Quitte à acheter une paire de tefillines, au moins acheter directement quelque chose qui va durer longtemps dans le temps. Et donc pour les tefillines à pshutim, on a vu que la moyenne elle était à 500 euros à peu près. Au minimum on parle, hein. C'est-à-dire que si on vend en dessous de 500 euros, c'est qu'il y a un problème. Et les gassotes, on a dit 800 euros. À partir de 800 euros, évidemment, après, tout va dépendre, comme tu as dit, la qualité du sofer, la qualité d'écriture, la qualité du parchemin. Tout ça, ça va dépendre. Et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un qui se retrouve du préserve avec des tefillines un jour pas cachères. À ce moment-là, on va juger le jour où il les a achetés, combien il a investi à l'intérieur. Est-ce qu'il a été prendre les moins chers, et dans ce cas-là, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, ou est-ce qu'il s'est vraiment investi dedans parce qu'il avait compris l'importance de l'objet, et donc si Dieu préserve, c'est arrivé que cette ligne n'était pas cachère, on va dire que dans le ciel, on pourra lui donner vraiment les circonstances atténuantes, c'est ça?
Oui, exactement. Exactement.
On parle beaucoup des mezouzot, des tefillines. J'aimerais qu'on parle du Sefer Torah. Bon, pas tout le monde a la chance de pouvoir faire écrire un Sefer Torah. C'est vrai que souvent, on se pose la question, quand une personne perd un proche, de vouloir écrire un Sefer Torah. On va revenir aussi sur cette façon de faire un peu plus tard. Mais je voudrais savoir comment ça s'écrit un Sefer Torah, en combien de temps ça s'écrit un Sefer Torah, combien ça coûte un Sefer Torah, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on fait un Sefer Torah. Voilà, tout ce qui tourne autour de ce sujet qui n'est pas, en fin de compte, si connu que ça.
Alors, l'écriture d'un Sefer Torah, ça prend du temps, puisque c'est très long. Il faut écrire toute la Torah, donc c'est mamash très très long.
C'est quoi très long? C'est 3 mois? 6 mois?
Alors, ça dépend combien la personne va écrire. Une personne qui va écrire en moyenne beaucoup, ou bien qui va écrire moins, on va dire plus ou moins 1 an.
Un an. En moyenne, un an pour écrire un Sefer Torah.
Un an pour écrire un Sefer Torah, c'est raisonnable.
D'accord. Combien ça coûte?
Alors, il faut compter à peu près 30 000 euros.
30 000 euros.
À peu près.
Évidemment, on pourra toujours trouver plus cher, comme on a dit pour les tefillines et pour les mezouzot. Tout va dépendre du sofer, etc., de la qualité qui sera derrière. Mais en moyenne, c'est 30 000 euros pour avoir un bon Sefer Torah.
Un bon Sefer Torah, bêtard.
Et comment on vérifie un Sefer Torah? Parce qu'une mezouza, tu vas dérouler le parchemin. Bon, les tefillines, il y a plusieurs parchemins, donc tu vas les dérouler aussi. Mais un Sefer Torah, c'est quand même balèze. Comment on fait pour vérifier un Sefer Torah?
Alors, le Sefer Torah, on le vérifie avant de le coudre. Pendant qu'il a été écrit, pendant qu'on écrit le Sefer Torah, alors on va en même temps, parallèlement, on va le vérifier.
Alors quand on dit on le coude, c'est qu'il y a des feuilles comme ça, voilà, pour un exemple. On a plusieurs feuilles comme ça qu'on va attacher. Donc avant de les attacher, on va les faire vérifier.
On va les faire vérifier.
Avec ta permission, j'aimerais rajouter un point que le Rav Dayan m'a dit en préparant l'émission. Souvent, quand quelqu'un perd un proche, la première idée qui vient, c'est on va écrire un Sefer Torah pour l'élévation de l'âme du défunt. Évidemment, c'est un geste magnifique en soi. Mais si, il rajoute, il dit, si on n'est pas sûr que ce Sefer Torah va être utilisé comme il faut et que c'est un vrai besoin, par exemple, pour une communauté d'avoir ce Sefer Torah, de le sortir lundi, le jeudi, le Shabbat, etc., mais qui va être rangé dans une armoire à Sefer Torah et on a déjà une quinzaine, peut-être que ça ne va pas ramener grand-chose à l'élévation du défunt et que mieux vaut, dans ce cas-là, investir dans des sidourim pour une synagogue, dans des livres de Torah pour un Beit HaMidrash qui en a besoin. Ces livres qui vont être vraiment utilisés par des gens, chaque mot qui va être étudié dans ces livres vont vraiment servir à élever l'âme du défunt. Et il dit, imaginez encore plus loin, l'apparition d'un livre de Torah. Grâce à ce livre, des gens vont mieux comprendre la cacheroute, la pureté familiale, les lois du Shabbat. Des familles entières vont peut-être se renforcer grâce à l'étude de ces pages. Et là, pour l'âme du défunt, c'est un jackpot. Donc c'est un vrai calcul à faire quand on décide de prendre cette décision de faire un Sefer Torah. J'aimerais avoir ton avis dessus, ce que tu en penses. Est-ce que c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose? Est-ce qu'on fait un Sefer Torah qui va des fois peut-être rester dans l'Arche Sainte sans être utilisé peut-être une fois de temps en temps, ou mieux vaut investir dans des livres de Torah qui vont être utilisés?
C'est sûr qu'il vaut mieux investir dans des livres de Torah, c'est sûr. Il y a même beaucoup de rabbanim qui conseillaient d'investir, de donner l'argent à des yeshivot pour que les bachorim puissent étudier, ou à des kolelim pour que l'avraire puisse étudier, s'asseoir étudier. Et c'est un grand sroute pour le défunt. Parce que chaque parole de Torah, c'est un monde entier en soi.
Pour lui, ouais.
Pour la personne elle-même, c'est un monde, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Alors, on arrive un peu vers la fin de l'émission. On a prévu une série de questions pratiques qu'on se pose sur tous ces objets-là. Tous les combien de temps on vérifie les mezuzot et les tefilines?
Les mezuzot, c'est deux fois tous les sept ans. C'est marqué dans Shulchan Aruch. Les tefilines, c'est marqué que si elles ont une reskat kashrut, si elles sont reconnues comme étant bien dès le début, et qu'elles n'ont pas eu de quelque chose qui s'est passé avec elles, elles n'ont pas été au soleil, elles n'ont pas été sous la pluie, etc., alors, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin de les vérifier.
Mais on sait qu'il y a, c'est bien de les faire vérifier, comme on dit, juste avant, pendant le mois d'Eloul, c'est ça?
Pendant le mois d'Eloul, alors c'est marqué pendant le mois d'Eloul.
Tu auras beaucoup de boulot à cette période-là, non?
Oui, j'ai beaucoup de travail. Disons qu'on va dire comme ça, c'est... il y a des rabbinim, le Rav Eliashiv, je crois, si je me rappelle bien, il disait de ne pas faire tous les ans. Parce que quand on prend la mezouza, on enlève la mezouza de la porte, pendant ce temps-là, on n'a pas la mitzvah de mezouza. Et donc, il faut éviter. Et donc, ce qu'on fait, c'est, si on doit la faire deux fois tous les sept ans, alors, deux fois tous les sept ans, mois d'Eloul.
D'accord. Et quand on fait vérifier les tefilines, comment on fait pour les mettre? Parce que c'est pas toujours, alors, en Israël... Moi, je te dis la vérité, voilà, en préparant l'émission, ça va, on entend toutes ces histoires. Ce matin, avant de venir, je suis parti au centre, dans un centre de vérification à Mnevrak pour amener mes tefilines. Là-bas, il y a plein de vérificateurs au même endroit, donc ça va assez vite. Dans la journée, ils arrivent à faire la vérification. Mais en général, ça prend peut-être une journée, deux journées. Comment elle fait la personne pour mettre les tefilines en attendant?
Alors, moi, ce que je conseille, bon, si on est en Israël, il y a des gmachim, ce qu'on appelle des gmachim, qu'on peut trouver.
Des gmachim, c'est des endroits où on prête.
On peut emprunter des tefilines. Et les mettre pendant une semaine ou un jour, deux jours.
Quand on est en France, on est à Paris.
En France, quand on est à Paris, alors ailleurs, d'abord, peut-être qu'on a un enfant qui a des tefilines, donc on peut s'arranger pour que lui les mette, et après moi je vais les mettre. On peut, à la synagogue, voir avec quelqu'un qui a des tefilines, qu'on va les mettre après lui, on va remettre les tefilines aussi.
C'est-à-dire que tu dis, même si on ne fait pas toute la prière avec, c'est ça?
Oui, voilà.
Ah oui, ça c'est une, je ne sais pas si c'est une rumeur ou c'est vrai. Est-ce que quand on écrit un Sefer Torah, à chaque fois qu'on écrit le nom d'Hachem, on doit tremper au mikvé? Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai?
Non, pas le Kédekar. Ça veut dire...
Y a pas
marqué,
ce point-là.
C'est pas ce point-là. Il y a marqué dans le... Il y a marqué que Tov la sofer tvilat midit. C'est bon pour un sofer d'aller se tremper chaque jour. Mais c'est bon, c'est pour le sofer. C'est une qualité que le sofer doit faire pour se sanctifier. Et pour que ce qu'il va écrire après, il sait qu'il fait quelque chose de kadosh, il fait quelque chose qui a une pureté, une grande pureté. Et donc, il va faire en sorte que lui-même, il est pur pour écrire comme il faut. Maintenant, s'il n'a pas été au mikvé, il s'est cassé la jambe, maintenant il ne peut pas travailler pendant trois mois, il ne peut pas écrire, il peut pas aller au mikvé, il ne va pas ne pas écrire, c'est impossible, il va continuer à écrire.
Alors d'où ça vient cette histoire de se tremper au mikvé avant d'écrire le nom de l'Hachem? Ou bien, est-ce qu'il y a une phrase spécifique à dire, alors, peut-être, avant de dire le nom de l'Hachem ou avant d'écrire un Sefer Torah?
Avant d'écrire un Sefer Torah, on doit dire « Arini Kotev Lishem Dushat Sefer Torah ». J'écris pour la sanctification du Sefer Torah. Et avant chaque Shem qu'on écrit, chaque nom d'Hachem qu'on va écrire, on doit dire « Arini Kotev Lishem Dushat Hachem ».
Et si on a oublié?
Si on a oublié, c'est pas saoul.
Et on
doit faire quoi? Alors, faut savoir, c'est marqué dans Shulchan Aruch, si quelqu'un, il n'a pas dit « Arini Kotev Lishem Dushat Hachem », et il se rappelle pas où c'est, tout le Sefer Torah, il va à la Gdusa.
Wow, bah
ça veut dire que tout le Sefer Torah qu'il a écrit maintenant pendant six mois de travail, qu'il a passé 600 heures ou je sais pas combien d'heures sur ce Sefer Torah, Ça va la Gnisa.
Donc ça renforce vraiment l'idée de se dire qu'il faut avoir affaire à quelqu'un de confiance, et qui n'aurait pas peur, entre guillemets, de jeter 6 mois de travail à la Gnisa.
Exactement.
Jeter, c'est pas le bon terme, mais enfin, je me comprends. C'est-à-dire que c'est... Ah ouais, à ce point-là. Il n'a pas dit cette phrase-là.
Il ne l'a pas dit. C'est pas saoul.
On a fait quelques vidéos sur ToraBox, déjà, des kits sourds pour expliquer un peu le métier de sauveur, etc. Comment faire attention à qui on a affaire et tout. On remet les liens d'ailleurs en description pour ceux qui veulent les voir. Il y avait un sauveur qui a dit dans une des vidéos, si 99,9% d'un Sefer Torah est vrai et bien écrit, ça vaut zéro si c'est pas 100%.
Exact. Je l'avais utilisé une fois en publicité, quand un Kiryat Sefer. On avait dit 99% cachère, c'est 100% pas saoul.
Waouh, ah ouais, d'accord, c'est encore mieux dit ça.
Comme ça, on avait dit, la publicité c'était Tishim Vetesha Achouz cachère, Zeme Achouz pas saoul.
Waouh. Ouais, donc il faut vraiment que ce soit du 100%.
100%.
Ok.
100%. Il n'y a pas. On peut pas se permettre des.
Quand on a. Si jamais je veux m'acheter un talit. Alors, je peux acheter le tissu, acheter les fils à part, et puis faire les nœuds, si je sais les faire, évidemment, il y a des règles pour faire les nœuds des tzitzit. Est-ce que je pourrais me chauffer, aller à Bnei Brak, voilà, je vais dans un magasin de sauf-route, et je vais acheter un parchemin, je vais acheter une plume, je vais acheter de l'encre, et je vais prendre le texte, et je vais l'écrire pour me faire une mezouza pour ma chambre. Est-ce que je peux le faire, ça? Est-ce que j'ai le droit, ou est-ce que, même comme c'est pour moi, il faut le faire avec un sauveur?
Faut le faire avec un sofer.
Et pourquoi? C'est quoi
qui connaît la route? Alors je vais dire pourquoi. Est-ce que moi, en tant que personne qui n'est pas médecin, est-ce que je vais aller faire une opération parce que j'ai vu comment?
Ouais, mais là on se dit c'est pas une opération. Là
c'est
on se dit
pire.
C'est pire. Pourquoi c'est pire?
C'est pire. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous protège. C'est ça qui nous donne tout.
Parce qu'on a dit tout à l'heure que la mezouza, les tefillin sont vraiment rattachés à la personne.
C'est ça qui va me protéger, c'est vrai qu'il va me protéger ma maison, qui va protéger tout. C'est quelque chose de très grave.
Et donc, on ne peut pas le faire là?
Non, on ne peut pas le faire, non. Il faut connaître d'abord bien les halakhot. Chaque din, il faut le connaître, parce que chaque lettre, elle est bien spécifique comment on doit l'écrire. Et si on ne le fait pas, ben, c'est pas saoul.
D'accord. On arrive déjà vers la fin de l'émission. Si quelqu'un qui regarde cette émission aujourd'hui veut acheter des tefillin, veut acheter une mezouza, veut faire écrire un Sefer Torah, c'est quoi les 3 règles d'or que tu pourrais lui donner?
Les 3 règles d'or. Première règle d'or, d'abord, c'est la tefila, prier.
La prière.
La prière, c'est la première.
Prier d'avoir un bon objet.
De faire un bon achat, de trouver la bonne personne, que le Sefer Torah que je vais faire ou bien les tefillin que je vais acheter soient kshérim comme il faut. Ils sont à la qualité comme il faut. C'est la première chose. Deuxièmement, comme on a dit, de choisir quelqu'un qui est compétent, qu'on aura confiance en lui.
Et reconnu, comme on a dit.
Ouais, qu'il ne se laissera pas impressionner par le gain et par ce qu'il peut perdre ou gagner. Et qui est reconnu, qui connaît la halakhot, qui a un certificat, qui a un diplôme de sofer. Et voilà, c'est ce qu'il y a besoin. Et le troisième point, c'est également le faire vérifier chez un bodek.
C'est-à-dire que pour l'entretien de la mezouza, de l'entretien, etc.
Même au début, ça veut dire pour le faire vérifier par un bodek, par un vérificateur qui est reconnu et qui va pouvoir dire si c'est bien ou pas.
Meir, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que l'émission vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On les lira, on essaiera de vous répondre. Et on vous dit à très bientôt sur ToraBox. Merci, au revoir.